avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Marie Casadebet.
On se retrouve pour la suite d'appels sur l'actualité à 10h40, heure de Paris, pour notre débat du jour ce matin sur le développement des classes moyennes en Afrique. Mythe ou réalité? Suivant les études, elles représenteraient entre 14 et 34% de la population. Difficile d'en faire un portrait précis, mais on estime que ces ménages ont les moyens d'épargner, d'acheter bien plus que le nécessaire et de se projeter dans l'avenir. Toute cette semaine, RFI vous propose le matin une série de reportages sur cette frange de la société. Des reportages qui sont d'ailleurs à retrouver sur RFI. Alors dites-nous maintenant ce que vous constatez dans votre pays. Existe-t-il vraiment une classe moyenne qui attire du coup les investisseurs? Comment expliquez-vous son développement? Ou bien dites-nous si vous pensez que ce concept est très anecdotique chez vous. On attend vos appels, vos témoignages au 33 9 693 693 70. Vos mails à appel avec un s.actu@rfi.fr et bien sûr vos commentaires sur Facebook et Twitter. Notre premier auditeur pour ce débat, c'est Clément qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour Clément.
Oui, bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs.
Clément, alors est-ce que vous constatez au Tchad l'émergence donc de ce qu'on appelle une classe moyenne, et est-ce que vous voyez à peu près ce que ça peut être une classe moyenne, hein, même si c'est difficile de la définir?
Oui, définir une classe moyenne, c'est clair que ça peut varier d'un pays à l'autre, mais bon, on peut trouver de synergies, enfin, on peut trouver de commodités dans tous les cas. Mmh. Et au moins, comme vous le dites déjà, quelqu'un qui peut manger, qui peut penser à l'avenir, qui peut pas seulement penser, mais essayer de prévoir son avenir avec des investissements, si possible. Mmh. Donc voilà, en fait, ce qu'on peut dire.
Épargner, par exemple.
Au cas du chat.
Oui, alors juste pour faire un petit point là-dessus, d'ailleurs, Clément, en fait, il y a des études très différentes, celle de la BAD, la Banque africaine de développement. Alors, c'était la plus optimiste. Elle estimait qu'il y avait 34% de la population africaine qui était de classe moyenne, mais elle partait du principe qu'il s'agissait des gens qui gagnaient plus de 2 dollars par jour et par habitant. Et une autre étude qui a été faite par la CFAO, spécialiste de la distribution, qui a d'ailleurs des projets d'ouverture de supermarchés sur le continent. Alors, pour eux, c'est plutôt 14% de la population, donc vous l'avez dit, des gens qui peuvent épargner, qui peuvent aussi dépenser à autre chose leur argent qu'aux produits alimentaires, qui peuvent investir aussi dans l'éducation de leurs enfants, payer par exemple des écoles privées. Et du coup, Clément, est-ce que vous avez l'impression de faire partie de cette classe moyenne?
Très modestement, oui, je peux dire, je peux dire, je mange, je me loge, je peux penser à la scolarité des enfants, je peux penser peut-être à mon petit moyen de déplacement. Modestement, on va dire oui, pourquoi pas. Maintenant, mon gros problème, c'est que dans un pays comme le nôtre, le Tchad, qu'est-ce qui est fait pour permettre à ce que cette classe moyenne, qui s'est constituée à la faveur, il faut le dire, de l'exploitation pétrolière, il faut quand même dire, et ça a été le levier qui a favorisé la création, en fait, de cette classe moyenne.
Et en l'occurrence, vous, Clément, vous travaillez dans le secteur privé, dans le secteur pétrolier?
Je suis dans le privé, si je veux dire. J'ai jamais été fonctionnaire, mais cela ne veut pas dire que non plus, au niveau des fonctionnaires, nous n'avons pas de gens qui apportent à la classe moyenne dont on parle tantôt. Mmh. Ça existe très bien. Il y a des secteurs qui sont plus ou moins permettant aux salariés de vivre.
Alors pour vous, Clément, en fait, la naissance et l'émergence d'une classe moyenne au Tchad a été permise par l'émergence du secteur pétrolier. Et du coup, quoi? Ça vous semble assez fragile, puisqu'on parle, hein, bien sûr, de la chute des cours?
Oui, bien sûr, c'est ça le problème. La chute du prix du baril fait que le secteur prend un grand coup. Et le chômage commence par arriver, les licenciements massifs ont cours, et voilà la fragilité du système qui n'était pas vraiment basé sur une réflexion politique pour créer cette classe. Mmh. Donc à ce moment-là, ça nous pose un problème. Pour moi, donc je me dis que le politique a un peu fauché parce qu'il n'a pas pensé comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir une classe moyenne qui, normalement, est la plus grande consommatrice. Et qui, donc, par cette consommation, va créer de la richesse, va créer de l'apport économique dans le fonctionnement normal d'un pays.
Oui, ça veut dire finalement au Tchad que pour vous, hein, la classe moyenne est assez fragile si elle continue à dépendre par exemple du secteur pétrolier. Merci beaucoup Clément pour votre témoignage. À N'Djamena au Tchad, on va accueillir maintenant Biran qui nous appelle de Dakar. Bonjour Biran.
Bonjour Marie.
Alors au Sénégal, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que vous voyez vraiment émerger une classe moyenne? Est-ce que pour vous ça vous parle quand on vous parle de développement de cette classe-là, une classe qui consomme?
Oui, absolument. Je pense que l'émergence d'une classe moyenne est une réalité aujourd'hui dans notre pays. Je crois sincèrement que cette classe moyenne est très souvent représentée par des jeunes cadres qui occupent de plus en plus de hautes fonctions dans des postes stratégiques et le plus souvent dans le secteur privé. Mm. On le voit tous les jours. Je vous donne un exemple. Dans la circulation, nous constatons la présence de nombreux véhicules neufs de dernière génération dans les artères. Et ça peut paraître aussi anodin, mais prenons le cas du téléphone portable. Aujourd'hui, nous voyons aussi une certaine prolifération des smartphones de dernier cri qui se trouvent entre les mains de plus en plus de Sénégalais, et ceci malgré leur coût exorbitant de nos jours.
Les signes d'un enrichissement alors d'une certaine classe de la société. Est-ce que vous-même, Biran, vous vous sentez concerné?
Oui, comme mon prédécesseur vient de le dire. Si on se base sur ce qu'on appelle classe moyenne, si on arrive à vivre au moins ses besoins, subvenir à ses besoins vitaux, payer la scolarité de ses enfants, rouler dans un véhicule privé, je pense que oui, j'appartiens à cette classe moyenne.
Est-ce que ça a toujours été le cas d'ailleurs, Biran? Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que finalement on est de la classe moyenne parce qu'on est les enfants d'une classe moyenne ou alors est-ce qu'elle peut émerger comme ça grâce au travail?
Oui, je pense que c'est grâce au travail pour le cas du Sénégal et pour mon cas personnel. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons bénéficié de ce qu'on appelle une démocratisation de l'éducation dans notre pays au Sénégal. Aujourd'hui, dans les années 2000, le gouvernement, dans le cadre de résoudre le problème de l'emploi au Sénégal, a essayé de créer des écoles de formation, a subventionné les écoles de formation, a accompagné les écoles de formation pour pouvoir former les jeunes Sénégalais à disposer des diplômes. Nous avons bénéficié de ça, nous avons fait des formations professionnelles et nous sommes aujourd'hui dans le secteur privé, ce qui nous permet aujourd'hui de...
Alors, on comprend finalement que Biran, ce n'était pas le cas de vos parents?
Non, absolument, ce n'était pas le cas de nos parents aujourd'hui. Nous, nos parents n'avaient pas cette opportunité et certains étaient fonctionnaires et n'avaient pas cette opportunité de pouvoir disposer de revenus suffisants. Nous, aujourd'hui, nous avons eu cette opportunité grâce à l'éducation que nous avons eue dans notre cursus, et ça nous a permis aujourd'hui d'être à des postes de responsabilité dans les secteurs privés.
Biran, vous avez fait allusion aux fonctionnaires, hein. Vous faites bien une différence entre ceux qui travaillent dans le secteur privé et le secteur public. On a un fonctionnaire sénégalais au téléphone, c'est bien ça Mamadou?
Bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Bonjour Mamadou, vous nous appelez de Dakar, vous êtes fonctionnaire, du coup est-ce que vous vous sentez concerné par cette classe moyenne? Vous avez entendu le témoignage de Biran qui lui pensait en faire partie.
Oui, j'ai entendu le témoignage de Biran, mais vraiment je ne me retrouve pas dans ce type-là. Nous, on note, ce que je note ici, c'est un enfoncement même de ces travailleurs qui sont coincés entre les banques avec des taux élevés, une charge sociale pressante liée au taux de chômage élevé au niveau des familles, un loyer cher. Ce qu'on note que ces classes sont délaissées par le gouvernement. On note l'absence totale d'une politique d'habitat, pas de projet d'avenir pour ces travailleurs, malgré qu'ils paient l'impôt très cher et ce sont de grands consommateurs. Moi, je vous parle, si un fonctionnaire, beaucoup de mes collègues sont là, vous travaillez près de 20 ans, 15 ans, 20 ans, vous n'avez pas de toit, vous êtes toujours dans un loyer, vous avez du mal à épargner.
Alors, ce que vous voulez dire, Mamadou, c'est quand on est fonctionnaire, on ne fait pas partie de la classe moyenne, on n'y a pas accès?
En tout cas, d'après les critères que j'ai entendus tout à l'heure, moi j'ai l'impression que nous ne faisons pas partie, moi et beaucoup de mes collègues, on ne fait pas partie de cette classe moyenne, puisqu'on ne parvient pas à épargner. On reste près de 15 ans avec un loyer, un enseignant qui n'a pas de toit.
Pas de voiture pour la plupart.
Alors, ça fait partie de cette étude, Mamadou, qui a été faite donc par ce groupe spécialiste de la distribution, la CFAO, évidemment, pour tâter un peu le terrain, pour voir s'il y avait des consommateurs pour ces supermarchés. Et il souligne qu'effectivement, la classe moyenne a des revenus stables, mais souvent, elle cumule des emplois formels et informels. C'était d'ailleurs un des reportages que RFI vous proposait sur cette classe moyenne. Est-ce que, Mamadou, autour de vous, ou vous-même, vous avez pensé à prendre un deuxième emploi pour tenter de gagner davantage?
Oui, quand même, de plus en plus, on comprend qu'un seul emploi ne suffit pas. On commence maintenant à penser qu'il faut vraiment un deuxième emploi pour pouvoir s'en sortir. Mais j'avoue quand même que nous n'avons pas cette culture-là souvent d'avoir plusieurs emplois. Les gens ici, dès qu'ils sont fonctionnaires, quelque part, ils s'agrippent sur ce métier, sur cet emploi souvent. Ils ne sont pas tentés d'aller faire autre chose.
Privilégier la stabilité, on le comprend, c'est aussi tout l'avantage du poste de fonctionnaire. Merci Mamadou d'avoir appelé de Dakar. On va voir comment ça se passe maintenant en Côte d'Ivoire avec Emma qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Emma.
Bonjour Marie.
Qu'est-ce que vous constatez, vous, en Côte d'Ivoire, Emma? Est-ce que vous voyez émerger alors cette nouvelle classe entre riches et pauvres, celle qu'on appelle classe moyenne?
Oui, effectivement, Marie, comme certains de mes prédécesseurs l'ont si bien signifié, la situation est la même en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on se promène dans les rues d'Abidjan, on constate vraiment l'émergence d'une certaine... Parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans le domaine de l'habitat, vous constatez de nouveaux buildings qui poussent ça et là, vous constatez des maisons vraiment bien huppées, des domiciles bien huppés qui poussent ça et là dans certaines communes d'Abidjan. Mm. Et aussi dans les rues, nous voyons aussi un peu dans la circulation des véhicules vraiment neufs de plus en plus dans nos rues.
Qu'est-ce qui explique, à votre avis, alors, cette naissance d'une classe, entre riches et pauvres, hein, mais en tout cas qui travaille dur pour sortir justement de la pauvreté. Comment vous expliquez la naissance de cette couche?
Bon, la naissance de cette couche peut être due aussi à la politique mise en place par le gouvernement, dans la mesure où le gouvernement a incité les entreprises, les bailleurs de fonds plutôt, à venir créer de l'emploi, de la richesse. Mm-hmm. Et je pense que l'incitation des bailleurs de fonds à venir créer des entreprises sur place a permis un peu d'empêcher beaucoup de jeunes issus de nos universités et de nos centres de formation.
Et alors du coup, Emma, est-ce que vous avez profité de cette manne-là? Vous parlez d'investissements étrangers notamment.
Oui, mais malheureusement, Marie, la situation demeure toujours préoccupante. Parce que la majorité des jeunes aujourd'hui, en ce qui me concerne par exemple, je n'ai pas encore d'emploi. Mmh. Vu que j'ai fini mes études, je dépends toujours, je peux dire, de mes parents.
Alors voilà, ça veut dire que c'est pas parce qu'on a fait de bonnes études qu'on peut atteindre le niveau de vie des classes moyennes. Ce qui manque alors, c'est l'emploi.
Voilà, en Afrique, c'est l'emploi qui manque. Mmh. Vous pouvez faire de bonnes études, mais à la fin, si vous n'avez pas un emploi, c'est comme si vous n'avez rien fait. Mmh. Aujourd'hui, les jeunes sont tentés de se jeter dans la débrouillardise, dans des métiers informels, qui juste pour arrondir les fins du mois. C'est le constat amer qu'on fait.
Et c'est pas ça qui fait qu'on a effectivement un revenu stable, qui est justement une caractéristique de ces couches intermédiaires. Merci beaucoup, Emma, de nous avoir appelé d'Abidjan. Il y a Jojo Assi qui nous envoie un petit message sur Facebook, qui nous dit: chez nous, ici au Togo, il y a deux classes, une minorité extrêmement riche et la majorité dans une précarité totale. Nous n'avons pas connaissance d'une classe moyenne au Togo. C'est soit pile ou soit face. On va voir comment ça se passe maintenant au RDC avec Olivier qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Olivier.
Bonjour Marie, bonjour RFI.
Quel est votre constat en République démocratique du Congo, Olivier? Est-ce qu'il y a une classe moyenne?
Bon, il est vrai que ces dernières années, on peut affirmer qu'il y a quand même une certaine émergence d'une classe moyenne, mais il faut dire qu'elle est un peu timide. L'émergence d'une classe moyenne suite aux investissements étrangers, notamment dans les secteurs des télécommunications, dans le secteur des banques, il y a de l'emploi qui se crée, mais de manière globale, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Le chômage est criant au niveau des jeunes. Il faut dire qu'aujourd'hui, entre 65 et 70% des jeunes qui terminent leurs études n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Ça arrive, cette classe moyenne, mais c'est vraiment timide. il y a des efforts à faire.
Ouais. Et alors, vous-même, Olivier, comment vous vous situez ?
Oui, en ce qui me concerne, moi personnellement,
oui.
Je peux affirmer que j'ai la chance de faire partie de cette classe moyenne-là, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Tenez, l'année passée, il s'est tenu un grand forum, le gouvernement a pris l'initiative de tenir un forum, où il a réuni des centaines de jeunes pour leur donner des moyens afin qu'ils puissent créer des petites et moyennes entreprises, donner de l'emploi à d'autres jeunes pour travailler justement à l'émergence de cette classe moyenne. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces engagements sont lettre morte. Donc, c'est vrai qu'il y a des investissements étrangers, mais je pense que nos gouvernements, les gouvernements africains, doivent fournir de plus en plus d'efforts d'aider les jeunes à être eux-mêmes des employeurs, à créer de l'emploi et à donner de l'emploi aux autres pour créer cette classe moyenne.
Alors je vais vous citer, juste si vous voulez bien, une spécialiste des questions de développement humanitaire, Sylvie Brunel, qui a écrit « L'Afrique est-elle si bien partiste aux sciences humaines 2014 ?» et qui disait que finalement c'était un peu une vue de l'esprit, ces classes moyennes en Afrique, que seuls les pays qui s'en sortaient vraiment étaient ceux qui étaient industrialisés. Elle parle de l'île Maurice, de l'Afrique du Sud, du Botswana, de l'Égypte, du Maroc et de l'Éthiopie. Et sinon pour les autres, ça, c'est plutôt quelques îlots. Elle parle des capitales, des grandes villes et surtout des zones côtières, lorsqu'elle parle de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir appelé de Kinshasa. On va accueillir maintenant Mamadou à Niamey au Niger. Bonjour, Mamadou.
Bonjour, Marie. Bonjour, les directeurs de RFI.
On écoute votre constat sur la classe moyenne. Est-ce qu'elle existe vraiment au Niger ?
Bon, en théorie, oui, mais dans le fait, vous trouverez la situation elle est trop criarde parce qu'on ne peut pas parler d'une classe moyenne parce que le coût de la vie est très cher. Mais quelques jeunes diplômés qui ont eu à accéder à un certain nombre de fonctions, quand on fait un peu le rapport entre le niveau de coût de la vie et le revenu de ces personnes-là, on peut dire que c'est une évolution qui n'est pas considérable. J'ai pas les statistiques, mais franchement, il n'y a qu'une minorité.
Vous pensez que c'est presque anecdotique au Niger, Mamadou ?
Exactement, c'est un peu anecdotique. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, mais c'est-à-dire dans la pratique, on ne sent pas ça. C'est des volontés politiques qui ne sont pas manifestes en réalité en termes de concret.
Alors vous-même, est-ce que vous travaillez dans le secteur privé, le secteur public ? Qu'est-ce que vous observez dans votre milieu ?
Moi, je peux dire que je fais partie de cette minorité de jeunes qui ont eu la chance d'avoir une place dans la fonction publique, dans le secteur public après les études, mais je vous assure, la solution ici, c'est surtout le secteur privé, et je disais tantôt, surtout le volet professionnel de l'enseignement pour pouvoir s'installer à son propre compte en créant des petites et moyennes entreprises.
Oui, parce qu'on l'entendait, Mamadou, avec d'autres auditeurs, d'autres pays africains, être fonctionnaire, hein, c'est pas ça qui permet d'atteindre une stabilité financière, on va dire, ou une aisance financière.
Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. En tant que fonctionnaire de l'État, c'est-à-dire c'est à peine le revenu que vous avez mensuellement couvre vos besoins élémentaires. Et vous savez, nous sommes en Afrique, la famille ne se résume pas à vous et à votre femme, la famille est élargie. Quand on est fonctionnaire, on a beaucoup de charges. C'est pourquoi il y a une nécessité impérative de revoir, n'est-ce pas, les prix des denrées nécessaires, les prix du carburant, les prix des loyers, particulièrement au Niger, c'est exorbitant, ce qui fait que quand on est un fonctionnaire moyen, on ne peut pas vivre décemment et aisément.
Et c'est aussi d'ailleurs, je rebondis, une caractéristique des classes moyennes. Souvent, elles se résument aux parents, aux enfants. Elles se referment un petit peu sur le noyau cellulaire de la famille. On va accueillir un dernier auditeur, c'est Jean qui nous appelle de Port-Gentil. Bonjour Jean.
Oui, bonjour Marie, bonjour aux auditeurs de RFI.
Au Gabon alors Jean, est-ce que vous constatez une classe moyenne importante ou pas ?
Clairement, il existe une classe moyenne au Gabon, bon, maintenant importante, je ne saurais pas dire, je dirais peut-être 25-30% de la population peut se situer dans ce qu'on peut définir comme étant une classe moyenne, effectivement. Alors, ça concerne aussi bien les fonctionnaires, peut-être pas tous les fonctionnaires, mais les fonctionnaires de certaines administrations, comme par exemple c'est de ce qu'on appelle au Gabon les régies financières, la douane, les impôts, le trésor, ou bien le ministère des hydrocarbures. Et puis une partie du secteur privé, également les professions libérales, médecins, avocats, etc.
C'est ce qu'on prend.